Le programme qui va suivre vous est présenté par le ministère enseigne-moi.com. Soyez transformés par l'enseignement de la parole de Jésus-Christ.
C'est pourquoi en son nom, je pose les mains sur les malades et ils sont guéris.
Jésus macht frei.
Jésus libère.
Jésus rettet.
Nous avons la parole de Dieu qui renverse des chaînes, des forteresses.
Tu passes du nom de chrétien au nom d'enfant de Dieu.
Je n'ai ni force, ni raison, ni sagesse pour me relever. Enseigne-moi.
Jean, au chapitre 3e, c'est David qui fera la lecture. Et nous lirons du verset 1er jusqu'à la fin, jusqu'au verset 21.
Alors Jean chapitre 3, il y eut un homme d'entre les pharisiens, son nom était Nicodème, un chef des Juifs qui vint lui auprès de Jésus de nuit. Il lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Nicodème lui dit, comment cela peut-il se faire? Jésus lui répondit, tu es docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Et si vous ne recevez pas notre témoignage, si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Verset 14. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal est la lumière, et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière afin que ses œuvres soient manifestées parce qu'elles sont faites en Dieu.
Merci David. Il est donc question de nouvelle naissance. Il y a donc une nouvelle naissance. Quand vous êtes né dans ce monde, vous avez reçu la vie de vos parents et vous avez reçu la vie de ce monde. Vous êtes né, vous êtes venu au monde. Jésus ici, il parle d'une autre vie, d'une nouvelle naissance, d'une nouvelle vie à recevoir. Et il dira, il faut, autrement dit, c'est impératif, si vous voulez aller au ciel, si vous voulez le pardon de vos péchés, si vous voulez être avec Dieu, si vous voulez ne plus être sans Christ, si vous voulez avoir la paix de Dieu, il faut, c'est impératif. Il faut recevoir cette nouvelle vie, la vie de Christ en nous. Nous ne pouvons pas l'avoir si nous n'avons pas accepté et reçu celui qui a cette vie, Jésus, le Christ adorable, venu non pour juger le monde comme nous l'avons entendu, mais pour nous sauver de la mort éternelle, en nous donnant son genre de vie, sa vie à lui. Et si nous n'avons pas cette vie, si nous ne recevons pas ce genre de vie, nous mourrons dans nos péchés. Il faut que vous naissiez de nouveau, dit Jésus. Il faut que vous receviez cette vie. Il faut que vous acceptiez Jésus, le Christ, le Fils de Dieu, afin que les uns et les autres, vous puissiez vivre de sa vie, non pas d'une imagination, non pas d'une pratique dévotionnelle, mais pour que vous puissiez vivre de sa vie, parce que vous aurez reçu une vie nouvelle. Cet homme qui était un érudit des choses de Dieu, la loi et de toute sa religion, qui était la meilleure, a pu dire, mais comment cela peut-il se faire? Et le Seigneur lui dit, tu sais tout en matière de religion, et tu ne sais pas cela. Nous savons beaucoup de choses. Nous sommes très pointilleux, très religieux. Mais souvent, nous n'avons pas la vie. Et c'est dramatique, parce que avec notre religion, nous mourrons dans nos péchés. Je me suis rendu compte qu'il y a une religion pentecôtiste. Il ne faut pas que nous soyons des religieux. Il faut que nous soyons des chrétiens. Il faut que nous ayons le Seigneur. Il faut que nous naissions de nouveau. Nous nous disons, dira Jésus, ce que nous savons. Quand Nicodème a lui, comment ça peut se faire? Jésus dira, nous disons ce que nous savons. Et nous aussi, nous rendons témoignage de Jésus-Christ. Nous parlons de lui. Dans ce lieu, vous n'entendrez parler de personne d'autre. C'est notre honneur de parler de Jésus afin que vous sachiez et afin que vous vous décidiez. Car il faut que vous naissiez de nous. Mais ceux qui croient à notre prédication croient à celui qui a et qui est venu pour nous sauver, Jésus-Christ, qui est mort sur le bois de la croix. Mais à partir de là, ceux qui croient en lui voient la lumière. Ils savent que Jésus est le Christ. Ils savent que le Fils de Dieu est venu mourir sur la croix. Ils savent que le sang précieux qui a été versé sur la croix a été versé pour la rédemption des âmes, de nos âmes. Jésus a racheté nos âmes. En versant son sang, il a fallu ce prix. Et ceux qui croient comprennent cela. Ils voient cela. Ils voient ce sacrifice. Et c'est insuffisant encore. Car si nous faisons que voir, et si nous n'entrons pas, cela va nous échapper. Nous avons donc besoin de bien réaliser qu'il faut. C'est impérieux. Il faut que vous naissiez de nouveau. Mais ceux qui croient à notre prédication, et puis qui voient cette lumière que nous projetons, Jésus-Christ, c'est la lumière du monde. S'il réalise le Fils de Dieu venu en chair, s'il est le Fils de Dieu, il est l'Éternel. S'il réalise le Fils de Dieu venu en chair, qui est mort, qui a versé son sang, qui a fait la rédemption par son expiation de toutes nos fautes, et le troisième jour il est ressuscité, il est monté au ciel, il est vivant. C'est ce que nous avons chanté tout à l'heure. Mais ce n'est pas une chanson, c'est la réalité glorieuse. Le Seigneur Jésus est vivant. Et cette vie, ce genre de vie qu'il possède, il la communiquera à tous ceux qui croiront en lui et qui l'accepteront dans leur cœur par la foi. Et qui lui diront, Seigneur, c'est en toi seul que je mets toute ma confiance. Cette vie nouvelle, elle va nous éclairer. Et elle va nous aider à comprendre qui est Jésus. Elle nous donnera un bon éclairage, comme la réalité d'une vie nouvelle qui nous inondera. Ce sera autre chose, ce sera différent de la nôtre. Nous avons une vie que nous avons héritée de nos pères, de notre mère. Et Jésus ici dira, ce qui est chair est chair. Ce qui est né de la chair est chair. Et ce qui est né de l'esprit est esprit. Deux choses qui ne sont pas pareilles, deux vies distinctes, deux vies différentes. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Et c'est une autre vie, c'est une autre chose. C'est pas pareil que notre vie à nous, c'est plus la nôtre, c'est la vie de Christ, c'est la sienne. Comprenons cela. Ce n'est pas nous qui, notre vie, qui va changer. Et ce n'est pas notre vie qui va faire que nous allons parler de lui. C'est sa vie que nous recevrons si nous l'acceptons, lui, dans notre cœur. C'est lui qu'il nous faut. Il nous faut ce genre de vie. Il faut, c'est impérieux, il faut que vous naissiez de nouveau. Ce qui est esprit est esprit. Et c'est ainsi que il faut que nous recevions sa vie à lui. Nous ne pouvons pas la produire par notre imagination. Nous ne pouvons pas la produire par nos émotions religieuses. Nous ne pouvons pas la produire par nos élans dévotionnels. Il faut recevoir cette nouvelle vie. Elle ne se trouve qu'en Jésus-Christ. Voir, il nous faut recevoir le Seigneur Jésus. Bien sûr, cet homme est âgé, il est vieux, dira-t-il, et il dira, comment cela peut-il se faire? Et Jésus dira, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut pas entrer. Et il y a quelque chose d'important. En parlant de Jésus, on voit la lumière. On peut voir. On peut dire, c'est comme ça. Nous avons de l'intelligence. L'Évangile est écrit. Nous pouvons donc dire l'Évangile dit ceci. Nous pouvons apprendre par cœur même. C'est insuffisant. Il faut le recevoir. Le Seigneur dit, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer. Il faut entrer dans les choses de Dieu. Pas seulement les voir, pas seulement en parler, pas savoir tout, pas seulement tout savoir avec sa tête et avec ses pieds marcher d'une façon ou d'une autre. Il faut que vous naissiez de nouveau. Et là, Jésus dira, si quelqu'un ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Il faut donc naître d'abord d'eau. Pourquoi d'eau? C'est le baptême. Le baptême. Le baptême n'est pas la purification des souillures du corps. Le baptême n'est pas un bain public que nous prenons devant tous, comme si nous faisions seulement un serment. Le baptême, c'est une identification dans la mort de Jésus. Le baptême, c'est le seul endroit où nous pouvons nous identifier avec le Seigneur dans sa mort. C'est pas dans l'eau que nous sommes baptisés, les frères, les sœurs. Nous sommes baptisés dans sa mort lorsque nous croyons que Christ est mort pour nous. Lorsque nous croyons que Jésus est venu pour nous délivrer de la mort éternelle qui est attachée à chacun d'entre nous. Et l'Épître aux Éphésiens dira ceci. Vous étiez morts dans vos offenses, dans lesquelles vous viviez autrefois. Mais Dieu nous a rendus à la vie, en lui et avec lui. Alléluia. Il y a donc une nouvelle naissance. Mais c'est à partir du moment où nous nous identifions, où nous nous reconnaissons dans cette mort qui est un châtiment, cette mort qui est une condamnation, lorsque nous reconnaissons que cette mort, c'est la nôtre, c'est ce que nous méritions, c'est ce qui devait nous arriver, c'est ce qui arrivera à chacun de ceux qui ne sont pas nés de nouveau. La condamnation est attaché à chacun. Et tous, sans exception, nous étions morts dans nos offenses. Si bien que si vous n'avez pas Jésus, vous êtes morts dans vos péchés. Et si vous n'acceptez pas, si vous ne recevez pas Jésus, si vous ne voyez pas la richesse de la grâce qui est en Jésus, pour la recevoir, afin que vous soyez sauvés, et que vous vous sauviez de cette génération perverse. Si vous ne voyez pas cela, vous restez dans vos péchés, et vous mourrez dans vos péchés. Et vous serez condamnés, parce que la condamnation est attachée au péché. Mais lorsque nous croyons que Jésus est mort pour nous, et lorsque, comme un pénitent, nous venons au Seigneur, humble et repentant, en disant, « Oh Seigneur, Seigneur, grâce, je te prie. Pardonne, pardonne aux pécheurs. Fais-moi grâce et donne-moi ta vie.
Alors nous sommes baptisés dans sa mort. C'est dans sa mort que nous avons été baptisés. C'est pas dans l'eau. L'eau, c'est un symbole. L'eau, ça représente une vérité glorieuse et abstraite, en quelque sorte. Et l'eau, le Seigneur l'a ordonné, celui qui sera baptisé, qui croira et qui sera baptisé, sera sauvé. Et quand nous venons au baptême, tous, sans exception, nous sommes tous dans nos offenses. Nous sommes tous dans nos péchés. Mais quand nous sommes baptisés dans la mort de Jésus, c'est-à-dire c'est en sa mort que vous avez été baptisés. Vous avez été engloutis avec lui par le baptême en sa mort, parce que vous avez été baptisés. Vous avez voulu appartenir au Seigneur, et vous avez cru que Jésus, sur la croix, était cloué pour toi, pour nous, et parce que vous le croyez. Alors vous aussi, vous êtes baptisés, et vous êtes baptisés dans l'eau. Mais l'eau, c'est rien, l'eau. C'est seulement un symbole. C'est en sa mort que vous avez été baptisés. Si c'est dans la mort de Jésus que nous avons été baptisés, nous sommes morts avec lui. Nous avons été identifiés avec lui par le baptême en sa mort. Et l'apôtre Paul dira, nous sommes devenus une même plante avec lui en sa mort. Et il dira même un peu plus loin, il dira que nous avons été crucifiés avec lui. Mon frère, ma sœur, toi qui es au Seigneur, toi, est-ce que tu as réalisé cela? Ou bien est-ce un bain que tu as pris? Est-ce que tu as réalisé cette identification dans la mort de Jésus sur la croix? Il faut que nous naissions de nouveau. Et pour naître de nouveau, il faut passer par là. C'est là que des gens se débarrassent de notre nature, de notre état, de pécheurs, de condamnés, méritant à juste prix, à juste titre, la condamnation. Mais la condamnation qui devait tomber sur nous, elle est tombée sur lui. C'est lui qui a expié nos fautes à notre place. Mais quand nous venons là, frères et sœurs, et j'attire votre attention à tous, quand nous sommes identifiés avec lui dans sa mort, nous croyons que non seulement Christ est mort, mais nous croyons que par la puissance de Dieu, Christ est ressuscité au siècle des siècles. Et quand nous nous identifions avec lui dans sa mort, notre état de mort, vous étiez mort dans vos offenses. Notre état de mort est délaissé, là, dans les eaux du baptême, il est délaissé dans la mort de Jésus. Et Dieu nous rend à la vie en lui et avec lui, et c'est là que nous recevons une vie nouvelle. Quand nous voyons la vie éternelle, mes frères, mes sœurs, le baptême, c'est une chose extraordinaire. C'est la communion avec Jésus. Ça fait exactement comme lorsque un jeune homme est ébloui par la jeune fille, ou bien la jeune fille par le jeune homme. Mais ça ne sert de rien si toute leur vie, le jeune homme dit « tu m'éblouis », et si la jeune fille dit « tu m'éblouis ». Mais lorsqu'il y a le mariage des deux, deviennent une seule chair. Il faut qu'ils soient mariés. Et les deux deviennent une seule chair. Mais l'Écriture dit que celui qui s'attache à Jésus-Christ, il est avec lui un seul esprit. C'est autre chose. C'est un seul esprit, mais c'est là que ça se passe. Quand nous avons cru, c'est là le lieu de l'alliance. C'est là, dans le baptême, le lieu de l'union. Il va faire qu'à partir de là, tous nos péchés, toute notre vie, toute notre condamnation, la mort qui était attachée à nous, elle restera dans la mort expiatoire de Jésus. Et Dieu qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, nous rend à la vie en lui et avec lui. Et là, nous sommes sauvés. Non seulement nous sommes nés de nouveau d'eau, mais alors il nous baptise du Saint-Esprit. Et alors nous sommes nés non seulement d'eau, mais aussi de l'Esprit. Je voudrais faire quelques lectures avec vous. Dans Éphésiens chapitre 2, verset 1er à 8, je demanderai David de me faire la lecture.
Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés,
dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu qui est riche à cause du grand amour, Dieu qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu.
Dis donc, nous tous qui avons été baptisés dans l'eau, Dieu nous a rendus à la vie en lui et avec lui. Alléluia. Et c'est pour l'éternité. En plus de nous, ça dépend de nous autant que nous serons fidèles. Lui, il est fidèle. On l'appelle le fidèle, le véritable. À nous d'être fidèles et d'être vrais dans notre communion, notre attachement, le lien qui nous unit maintenant pour toujours avec le Seigneur, le partage de cette vie, Christ est ma vie. Vous ne pouvez pas dire « Christ est ma vie » tant que vous n'avez pas reçu sa vie. C'est à partir du moment où nous sortons des eaux du baptême et Dieu nous baptise du Saint-Esprit, nous pouvons dire « Dieu, Christ est ma vie ». Nous sommes nés de nouveau. Ne soyons pas légers. Ne faisons pas de la Pentecôte une religion, une pratique. Vivons la Pentecôte. Goûtons la Pentecôte. Dans l'Épître, s'il vous plaît, l'Épître aux Galates. L'Épître aux Galates, au chapitre 2e, voilà ce qui est dit. Christ étant venu afin que nous fussions justifiés par la foi. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous la loi. Car, lisez bien, écoutez bien, car vous êtes tous fils de Dieu. Par la foi en Jésus-Christ, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Christ est ma vie. Ce n'est pas une idée. Ce n'est pas un élan émotionnel religieux. C'est un partage. Christ est ma vie. Il faut se remettre en compte, les frères et les sœurs. On a besoin de bien voir où nous en sommes, de façon que nous soyons pas courts. Pour le Seigneur va venir, car il vient. Il vient bientôt. Il est parlé dans toute la loi de la circoncision. On va pas trop s'étendre, mais c'était une marque dans la chair. Et pour faire partie du peuple de Dieu, il fallait cette marque. Mais nous allons faire une lecture dans Colossiens. Il y a aussi la circoncision de Christ. Colossiens, s'il vous plaît. Épître aux Colossiens. C'est David qui fera la lecture là. Vous allez bien lire. Chapitre 2, nous allons lire du verset 10 jusqu'au verset 15.
Colossiens, chapitre 2, verset 10, vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. C'est en lui que vous avez été circoncis, d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair, ayant été enseveli avec lui par le baptême. Vous êtes aussi ressuscité en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu, qui l'a ressuscité des morts. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui, en vous faisant grâce pour toutes vos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant.
Et juste avant de monter au ciel, vainqueur de la mort, vainqueur des autorités, vainqueur des puissances, vainqueur de tout. Avant de monter au ciel, Jésus dit, allez prêcher, nous avons prêché, façon que vous soyez éclairés, la lumière soit là pour vous, et que vous puissiez savoir, vous décider. Mais Jésus a dit, il faut, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croit pas, il ne se fait pas baptiser. Et si quelqu'un ne croit pas comme cela et se fait baptiser, c'est un bain. Prenez le bain à la maison. Car les eaux du baptême ne sont pas la purification des souillures du corps. C'est un engagement de bonne conscience avec le Seigneur, le vivant. À partir de là, nous appartenons au ressuscité, au Tout-Puissant. Nous ne craignons plus ni la mort, ni les choses présentes, ni les choses à venir. Nous sommes au Seigneur, et le Seigneur est à nous. Et nous sommes sauvés. Il faut, c'est impérieux, il faut que tu naisses de nouveau. Il faut que tu naisses d'eau et d'esprit si tu veux entrer dans le royaume de Dieu.